Bienvenue chez Lessons to Grow, le podcast consacré au bon management en période de bouleversement. Je m'appelle Armin Elrault, je suis dirigeant international et entrepreneur. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. Tu écoutes la 200e épisode de Lessons to Grow. Et pour cette occasion, j'aimerais parler des bons patrons et des mauvais patrons, de ce que j'ai vécu au cours de ma carrière, de ce que j'en ai appris, et peut-être aussi de ce que toi, tu pourras en retenir. Mais avant cela, place à l'introduction. Les bons patrons, les mauvais patrons, c'est le titre de cet épisode. Tout le monde connaît le bon flic, mauvais flic. Beaucoup connaissent aussi Rich Dad, Poor Dad. Alors, père riche, père pauvre. Et je dirais en toute modestie, Been there, got the t-shirt. I was there, j'étais là et j'ai le t-shirt. J'ai moi-même fait partie de la direction de grandes entreprises. J'ai travaillé en étroite collaboration avec ce que l'on appelle parfois les superstars du monde de l'entreprise. En Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, dans des environnements internationaux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des organisations. Et j'en ai vu des choses. À l'occasion de ce 200e épisode, j'ai donc envie de lever un peu le voile sur certaines expériences. Il sera question des schémas récurrents, de bons patrons, de mauvais patrons, de personnalités marquantes, de mentors, de clients, d'investisseurs, plus largement de toutes ces situations dans lesquelles nous dépendons d'autres personnes. Parfois de façon réelle, parfois simplement parce que nous le ressentons ainsi. Mais avant tout, merci. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Nous approchons désormais les 10 000 écoutes sur Lessons to Grow et comptons près de 500 abonnés. Et je suis sincèrement heureux de constater que ce partage d'expérience, nourri par près de 20 années de management international et plus de 10 années d'entrepreneuriat, trouve un écho auprès de vous. Entrons donc directement dans le vif du sujet et commençons par les mauvais patrons. Je pense notamment à ce docteur en informatique, un expert compétent sur le plan technique, un peu excentrique, un peu original, souvent amusant. Puis, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la tête d'une trentaine de personnes. Et comme dirigeant, il était totalement inadapté à la fonction. Ce genre de situation, je l'ai observé à plusieurs reprises. Un excellent expert, un original brillant, quelqu'un de très compétent sur le plan technique, puis un jour on lui confie une équipe. Et à partir de là, tout se complique. Les collaborateurs doivent apprendre à contourner certaines difficultés, à s'adapter et à trouver leurs propres solutions. Et, petit à petit, chacun construit ses propres chemins parallèles. Puis, il y avait une autre catégorie de dirigeants. Et celle-là est nettement plus difficile à vivre. Je parle de ceux qui compensent leur surcharge de travail, leur stress ou leur insécurité par des réactions émotionnelles excessives. J'ai connu toutes les variantes, jusqu'au véritable colérique. Il faut toutefois replacer les choses dans leur contexte. Au début de ma carrière, le management autoritaire était encore largement accepté. L'intimidation des collaborateurs faisait presque partie du paysage dans certaines organisations. Beaucoup de comportements considérés comme normaux à l'époque serait aujourd'hui tout simplement inacceptable. Et c'est une bonne chose. Nous avons appris à faire avec. On encaissait, on prenait sur soi. On essayait simplement de traverser la tempête. Aujourd'hui, mon regard est différent. Je pense qu'un dirigeant doit savoir distinguer les émotions des faits. C'est lui qui veut diriger des personnes doit maîtriser ses émotions. Et plus elles sont fortes, plus cette maîtrise devient essentielle. Mon père disait parfois, lorsque nous étions enfants et que nous faisions preuve d'un peu trop d'entêtement, « Va donc te cogner trois fois la tête contre un mur, peut-être que cela ira mieux après. » Bien sûr, il ne fallait pas prendre cela au pied de la lettre. C'était une image. Mais le message était clair. D'abord se calmer, respirer, puis regarder les faits. Alors, comment gérer ce type de patron face à un véritable colérique ou à quelqu'un qui utilise la pression psychologique comme méthode de management? Les options restent limitées. On peut essayer d'en parler directement. La plupart du temps, cela ne mène pas très loin. Ces personnes trouvent souvent des excuses ou des justifications. On peut également emprunter la voie officielle. Dans un grand groupe, cela signifie généralement passer par les ressources humaines. Mais cette démarche n'est pas toujours simple non plus. On vous reprochera parfois un manque de loyauté, ou l'on vous fera comprendre de manière plus ou moins subtile qu'il aurait mieux valu ne pas faire de vagues. Parfois même que vous êtes simplement trop sensible. Tout cela existe. Si quelqu'un humilie ses collaborateurs, les rabaisse ou les intimide de manière systématique, mon conseil aujourd'hui est simple. Utilisez les canaux officiels ou allez directement voir le dirigeant de l'entreprise. Et si celui-ci ne vous soutient pas, partez. Certaines choses ne sont tout simplement pas acceptables. Et surtout, souvenez-vous d'une chose. Vous avez davantage de valeur que vous ne le pensez lorsque vous êtes dans ce type de situation. Pendant longtemps, j'ai accepté beaucoup trop de choses. Par peur, par ambition, pour la carrière suivante. Pour satisfaire cette chaîne invisible de décideurs, de menteurs, d'influenceurs, dont dépend parfois une carrière. On se persuade qu'il faut tenir bon. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Même si je sais aussi qu'il est toujours plus facile d'analyser le passé avec l'expérience acquise ensuite. Un autre type de patron que j'ai rencontré, c'est celui que j'appelle pour les besoins de l'histoire le Rumpelstiltskin. Quelqu'un qui était tout simplement dépassé par son rôle. Il travaillait énormément, il se donnait sans compter. Il était même proche de l'épuisement. Mais malgré tous ses efforts, il n'avait ni les capacités intellectuelles, ni la profondeur professionnelle nécessaire pour occuper pleinement sa fonction. Dans son cas, il n'avait pas non plus de formation universitaire. En soi, cela ne signifie absolument rien. J'ai rencontré des dirigeants remarquables sans diplôme prestigieux. Le problème n'était pas là. Le problème était qu'il ne parvenait ni à convaincre, ni à inspirer. Et cette faiblesse, il essayait de la compenser par une pression plus ou moins subtile. C'est là que l'on touche à un sujet fondamental, la dépendance. Cela peut arriver avec un patron, mais aussi avec un investisseur, avec un mentor, avec un client, avec un membre d'un conseil d'administration. Partout où existe une relation de dépendance réelle ou perçue, le rapport de force peut être utilisé à mauvais escient. Pendant un temps, il faut parfois supporter ce type de situation. Mais il arrive un moment où il devient nécessaire d'explorer d'autres options. C'est d'ailleurs l'une des leçons les plus importantes que m'ont enseigné les mauvais patrons. Ne reproduis jamais ce que tu as toi-même subi, ni comme responsable, ni comme mentor, ni comme entrepreneur, ni comme investisseur. Puis, il y a un autre profil que j'ai souvent croisé, celui qui s'est vendu mieux qu'il ne s'était préparé. Quelqu'un passe un entretien, impressionne tout le monde, décroche un poste prestigieux, puis découvre une fois installé qu'il n'est pas réellement prêt pour ce niveau de responsabilité. Mon professeur préféré au Babson College, Neil Thornberry, appelait ce type de personnage un « country clubber ». C'est quelqu'un qui évolue dans les couloirs comme s'il était dans un « country club », un club privé, une belle allure, de l'aisance, du style, un talent certain pour la conversation. Comme s'il passait ses journées sur le pont d'un paquebot de luxe. Mais dès qu'on creuse un peu, la substance se fait plus rare. Et surtout, cela ne doit jamais se voir. J'ai vu ce type de profil provoquer des pertes de plusieurs millions. Ils sont souvent moins agressifs que les colériques. Ils ne crient pas. Ils n'intimident pas ouvertement. Mais ils esquivent. Ils brouillent les pistes. Ils donnent l'impression de maîtriser les choses à l'heure qu'ils cherchent surtout à masquer leurs limites. Et tôt ou tard, cela finit par coûter cher. Très cher même. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à supporter l'incompétence dans une fonction à côté de moi. Et j'avoue que j'ai toujours du mal avec la médiocrité. C'est probablement l'un de mes défauts. Je peux être assez radical sur ce sujet. Et je pense que cela s'est parfois vu. Il m'est arrivé d'en payer le prix. Mais sur le fond, je maintiens ce constat. Lorsqu'une personne est dépassée par sa fonction et tente de masquer cette réalité, le danger devient réel. C'est l'un des fils rouges que j'ai retrouvés chez de nombreux mauvais dirigeants. Je dis parfois de manière un peu provocatrice, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient. C'est évidemment une simplification. Ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient dépassés. Not big enough for the job. Et à mes yeux, c'est l'un des schémas les plus fréquents du mauvais leadership. Il existe aussi une autre variante, celle où la personne comprend parfaitement son métier. Sur le plan intellectuel, elle n'est ni incompétente ni dépourvue d'intelligence, mais elle construit progressivement un monde parallèle. Elle se présente comme quelqu'un qu'elle n'est pas réellement. Et elle décrit son équipe comme quelque chose qu'elle n'est pas davantage. Les collaborateurs s'en aperçoivent très vite. Le cynisme s'installe alors souvent. Et à partir de ce moment-là, le respect commence à disparaître. Là encore, la leçon est simple. Reste ancré dans la réalité. N'invente pas d'univers parallèle. Ne te raconte pas d'histoire. Et ne laisse pas les autres t'en raconter non plus. Puis, il y a le tyran, le despote. Encore une fois, quelqu'un qui était dépassé par sa fonction. Il se présentait comme participatif. En réalité, il voulait tout contrôler. Peu de confiance dans les autres. Probablement, peu de confiance en lui-même également. Au fond, ce n'était pas un mauvais homme, mais dans le rôle qu'il occupait à l'époque, il n'était pas à sa place. Il s'était hissé à force de travail depuis des origines modestes. Et je précise immédiatement qu'il n'y a rien de négatif à cela. Je viens moi-même d'un milieu très simple. Mais il portait probablement beaucoup d'inquiétude et d'insécurité en lui. Et cela avait fini par produire un dirigeant obsédé par le contrôle. Maladroit dans les relations humaines, maladroit dans sa communication. Là encore, on retrouve le même schéma. Le sentiment d'être dépassé cherche une compensation. Chez le country clubber, cela prend la forme du théâtre. Chez le despote, cela devient du contrôle et de la pression. Chez le colérique, cela explose sous forme de colère. Mais les conséquences restent presque toujours les mêmes. Le désengagement, la démission intérieure. Puis, il y a encore une catégorie. Le dirigeant pour qui son ego et son propre récit deviennent plus importants que l'entreprise elle-même. Pour les équipes, c'est extrêmement frustrant. Ces personnes sont souvent intelligentes, structurées. Elles ont parfois même de très bonnes idées sur le papier. Tout semble cohérent, tout paraît logique. Mais lorsque vient le moment de l'exécution, la réalité finit par reprendre ses droits. Ce sont des rêveurs, des personnes qui voudraient parfois être une sorte de Steve Jobs, mais sans avoir encore réalisé le travail nécessaire pour y parvenir. J'ai une formule un peu directe pour cela. Si l'on veut jouer dans la grande cour, dans la cour des grands, si l'on veut jouer dans la cour des grands, il faut être capable d'en assumer les exigences. Ces personnalités sont souvent peu réceptives aux conseils. Elles ne font qu'à leur tête. Elles donnent l'impression d'écouter. Elles organisent des discussions. Elles sollicitent des avis. Mais au final, elles font exactement ce qu'elles avaient décidé de faire dès le départ. Difficile à gérer. Et cela devient profondément démotivant pour les équipes. Là encore, le résultat est souvent le même. Le cynisme, le retrait intérieur, la perte d'engagement. J'ai également observé ces comportements en dehors du monde du management. J'ai vu des investisseurs traiter des fondateurs avec un mépris difficile à imaginer. J'ai vu des mentors humilier leurs protégés. J'ai vu des clients transférer leur propre pression sur leurs partenaires, leurs prestataires ou leurs fournisseurs. Cela existe partout. La règle reste toujours la même. Cherche des alternatives, ou mieux encore, construis-les avant d'en avoir besoin. D'autres investisseurs, d'autres clients, d'autres opportunités, d'autres partenaires, d'autres chemins. Et oui, parfois, il faut aussi avoir le courage de mettre fin à une relation commerciale. Il ne faut pas accepter n'importe quoi sous prétexte que l'argent est en jeu. À un moment donné, il faut des principes. Pas par orgueil, pas par esprit de confrontation, mais par respect de soi-même. Pendant longtemps, dans les grands groupes, j'ai accepté beaucoup trop de choses. Comme entrepreneur, je ne le fais plus. Et là, nous arrivons au bon patron. Et là, c'est un tout autre sujet. Au tout début de ma carrière, j'ai eu un patron particulièrement remarquable. Il était structuré, exigeant, disponible, ouvert. On pouvait aller le voir. Il n'y avait pas de mise en scène hiérarchique inutile, pas de jeu de pouvoir. Mais il y avait une ligne claire. Et lorsqu'une situation l'exigeait, il savait aussi dire « Non, comme ça, ça ne va pas ». Pour moi, c'est l'essence même d'un bon leadership. Soutenir tout en exigeant. Écouter sincèrement. Donner des repères, tracer un cap. Puis, j'ai eu un autre responsable qui m'a profondément marqué parce qu'il prenait du temps, du vrai temps, même sur le fond des dossiers. Il relisait les offres, les propositions commerciales, les présentations, les rapports. Il contribuait à les améliorer. Il ne se contentait pas de commenter depuis son bureau. Je me souviens d'un atelier de travail consacré à une proposition commerciale de plus de 135 millions. À un moment donné, il nous a interrompus et il nous a dit quelque chose qui m'est resté. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour organiser un atelier agréable avec quelques activités sympathiques et beaucoup de bonnes intentions. Nous sommes ici pour atteindre un objectif. Alors, de quoi avons-nous réellement besoin pour y parvenir? Puis venait sa formule. All hands to the pump, tout le monde à la pompe. Tout le monde mobilisé, tout le monde concentré sur l'essentiel. Ce sont des gens d'action, des bâtisseurs, des personnes qui font avancer les choses. Et puis, bien sûr, il y a eu Eduardo Montes. Je peux le citer sans hésitation. À l'époque, il dirigeait Siemens Espagne, une organisation qui représentait déjà plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il fut l'un de mes patrons avant de rejoindre plus tard le directoire mondial de Siemens. Alors, Eduardo, hein, il a rejoint le directoire mondial de Siemens, un dirigeant exceptionnel. Qu'est-ce qui faisait sa force? Le focus, un focus absolu, une grande rigueur, des attentes claires. Avec lui, on savait toujours où l'on en était. Pas de discours inutiles. Pas de détours, pas de faux-semblants. Et surtout, il incarnait lui-même ce qu'il demandait aux autres. Je me souviens de présentations de résultats que j'ai faites. Il examinait les chiffres, ligne par ligne, et soudain, il s'arrêtait et il disait « Armin, ça ne colle pas ». Puis il répétait « No me cuadra, Armin, no me cuadra, en espagnol, ça ne colle pas. Quelque chose lui paraissait incohérent. Alors il fallait expliquer, comprendre, justifier. C'est aussi cela, le leadership. Être prêt à entrer dans le détail lorsque c'est nécessaire. Ne pas simplement exiger, montrer l'exemple. Être impliqué. Après mes années à l'étranger, j'ai également rencontré une autre personne qui m'a beaucoup appris sur un sujet très différent. La sérénité. Ou plutôt, pour être précis, quelqu'un qui m'a souhaité davantage de sérénité. C'est la première personne qui m'a fait prendre conscience de ce sujet. Dans une dédicace discrète glissée dans un livre. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Cela remonte à plus de 20 ans. Et depuis, je travaille sur cette dimension de ma personnalité. La sérénité est probablement l'un des plus grands défis de ma vie. Comme on dit souvent, la prise de conscience est déjà un premier pas. Et à tous ceux qui vivent sous pression, je ne peux donner qu'un conseil. Travaillez votre sérénité. Si elle ne vous est pas donnée naturellement. Je pense aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers, aux responsables de PME, à tous ceux qui écoutent ce podcast. La pression fait partie du métier, et pour certains, elle est permanente. Or, la pression permanente finit toujours par avoir un coût. Pour moi, la sérénité commence par une idée simple. Accepter la réalité telle qu'elle est. Ne pas lutter contre les faits. Ne pas souhaiter qu'ils soient différents. Les regarder en face. Puis se demander quelle est la meilleure réponse possible à cette situation. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Certaines personnes possèdent cette qualité naturellement. Mon père, par exemple, il a aujourd'hui 90 ans. Ma grand-mère paternelle possédait cette même forme de calme. Mon beau-père également. J'ai toujours admiré cela. Personnellement, je doute d'atteindre un jour ce niveau. Je suis construit autrement. Davantage de moteur, davantage d'ambition, davantage d'envie de réussir. C'est probablement le revers de la médaille. Comme le disait Bruce Lee, « Be happy, but never satisfied. » Sois heureux, mais jamais satisfait. Pourtant, lorsqu'on dirige des personnes, une certaine forme de sérénité devient indispensable. Nous avons récemment connu un premier trimestre qui n'était pas particulièrement brillant dans mon agence. Rien de dramatique, rien qui menaçait l'existence de l'entreprise, mais certainement pas un trimestre qui nous donnait envie de sabrer le champagne. Dans ce genre de situation, il faut regarder la réalité avec calme et lucidité. Examiner les coûts fixes et identifier ce qui est réellement nécessaire. Comprendre ce qui stabilise l'activité. Puis revenir aux fondamentaux, aux bases. Dans notre métier, cela signifie reprendre les conversations avec le marché, par exemple. Créer de nouvelles opportunités, parler aux clients. Lancer de nouveaux échanges, retrouver un rythme d'action régulier, stable, presque statistique, faire le travail, tout simplement. C'est ce que nous avons fait, et les résultats sont venus. Cela aussi relève de la sérénité, ou peut-être davantage de la lucidité. À vrai dire, la lucidité m'est plus naturelle que la sérénité. Revenons maintenant aux figures de leadership qui m'ont marqué. L'une des plus importantes fut ce mentor qui m'a confié des responsabilités très tôt dans ma carrière. À l'époque, il dirigeait une entreprise pesant plusieurs milliards. Moi, j'occupais encore un poste relativement modeste dans l'organisation. Et pourtant, il m'a remarqué. Un jour, il m'a envoyé à Sydney. Je devais évaluer une opportunité d'externalisation pour la Commonwealth Bank of Australia, une grande banque, je peux le dire aujourd'hui, c'était une autre époque. Et ma mission consistait à préparer une recommandation stratégique destinée à la direction. Pour un projet d'outsourcing. J'ai pris cette responsabilité extrêmement au sérieux. Évidemment, lorsqu'une personne de ce niveau vous fait confiance, vous avez envie d'être à la hauteur. Je pense avoir fait du bon travail. Et lui aussi le pensait. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La confiance crée souvent les conditions de la performance. Voilà un exemple typique de bon leadership. Vous confiez à quelqu'un davantage de responsabilités qu'il ne pense pouvoir en assumer. Un peu plus, pas beaucoup plus, juste assez pour provoquer une progression. Comme disent les Américains, « bite off a little more than you think you can chew ». Mais ensuite, vous restez présent, vous êtes disponible, vous accompagnez, parce qu'autrement, la personne risque simplement de s'étouffer avec ce morceau trop ambitieux. Les grands dirigeants savent faire cela. Ils font confiance. Pas aveuglément. La confiance doit toujours être méritée. Mais là aussi, nous avons un grand malentendu des fois. Mais ils font confiance. Ils exigent, ils créent du dépassement de soi. Et surtout, ils ne vous abandonnent pas lorsque les difficultés arrivent. Puis est arrivé David Andrews, l'un des dirigeants les plus marquants de toute ma carrière. Je le cite volontairement aussi, parce qu'il le mérite. Avec ce mentor qui m'avait envoyé à Sydney et avec Eduardo Montes, David Andrews fait partie des personnes qui m'ont le plus influencé. Peut-être même la plus influente, et il avait une particularité assez rare. C'était le seul dirigeant dont les interventions pouvaient parfois me donner la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il réunissait plusieurs qualités rarement présentes au même niveau chez une seule personne. Le focus, le professionnalisme, l'orientation résultat, l'exigence, la confiance, le soutien, la capacité à être présent quand il le fallait, et aussi un vrai talent de communicant, un excellent storyteller. Mais ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'était son courage de défendre ses principes. Je travaillais alors sur des contrats BPO, Business Process Outsourcing, représentant parfois plusieurs centaines de millions. À partir d'un certain stade du processus de vente, nous avions une règle très simple. Nous voulions l'exclusivité. Plus de discussions parallèles avec nos concurrents. Un jour, un très grand groupe international a refusé cette condition. La réponse de David fut immédiate. We walked away. Nous sommes en allés. Nous avons quitté le processus, simplement. Un an plus tard, cette même entreprise est revenue et nous avons signé le contrat. Mais ce type de courage suppose une condition préalable. Ne jamais devenir dépendant d'une seule transaction, d'un seul client, d'un seul contrat. La solidité économique donne la liberté stratégique. Et cette leçon m'est restée, parce que je n'avais jamais vu auparavant une telle cohérence entre les principes affichés et les décisions prises. Et chez Andrews, il y avait encore autre chose, quelque chose que je n'ai pratiquement jamais revu depuis, la discipline d'exécution. Chez Andrews, il y avait cette qualité supplémentaire que je n'avais jamais observé, comme j'ai dit. Et je ne l'ai jamais retrouvé depuis. Cette discipline d'exécution, la discipline de mise en œuvre. Il y avait une ligne claire. Lorsqu'une décision était prise, elle était exécutée. On ne revenait pas dessus tous les trois jours. On ne regardait pas constamment à gauche et à droite pour vérifier si une autre option paraissait soudain plus séduisante. Parfois, la décision n'était pas parfaite. Parfois même, elle s'avérait erronée. Mais elle était exécutée. Cette capacité d'exécution m'a profondément impressionné. À ce niveau, je l'ai rarement revu. C'était remarquable. L'orientation vers les chiffres était également essentielle. Je repense souvent à une autre entreprise américaine pour laquelle j'ai travaillé. Là-bas, une phrase revenait constamment. « Give me the numbers. » Donne-moi les chiffres. Comment se porte l'activité? Où en sommes-nous? À la fin, les chiffres racontent toujours une histoire. Et ils mentent rarement, ils disent toujours la vérité. À quoi sert-il que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'apprécie si l'entreprise perd de l'argent? Cela n'a aucun sens. Les chiffres doivent être au centre des discussions, mais toujours accompagnés de soutien, d'échanges et d'accompagnement. Je me souviens d'un appel avec mon supérieur américain. J'étais dans un train entre Berlin et une autre ville en Allemagne. C'est l'ICE, l'équivalent du TGV en France. Mes chiffres n'étaient pas bons. La conversation a duré peut-être 10 secondes. Il m'a dit, Armin, we can't lose that much money, so do something about it. On ne peut pas perdre tant d'argent, alors fais quelque chose. Puis il a raccroché. Le message était parfaitement clair, mais je savais également une chose, si j'avais besoin de lui, il serait là. Alors j'ai agi. Et lorsque la situation s'est redressée, j'étais de nouveau, comme disent les Anglais, « in his good books ». La clarté est importante. Les messages clairs sont importants. Ensuite, il y a eu le grand dirigeant le dirigeant, pas le grand dirigeant, mais le dirigeant d'un grand groupe de télécommunications. Oui, un grand dirigeant aussi pour moi. Il n'était pas mon supérieur direct, mais il faisait partie des personnes que j'observais avec attention. Il dégageait une véritable présence, pas cette autorité artificielle du despote qui contrôle tout et tout le monde. Une autre forme de présence, une expérience internationale. Une ouverture au monde, le goût des langues, une curiosité sincère pour les cultures. Il n'était pas français, mais il parlait français à un niveau très remarquable. Si tu veux devenir un grand dirigeant international, parler anglais ne suffit pas. Tu dois t'immerger dans d'autres cultures. Tu dois t'y intéresser sincèrement. Tu dois aimer comprendre les gens. Tu dois être capable de les ressentir. C'est là que commence le véritable leadership international. Et les meilleurs possèdent également une vision. Ils savent gérer, ils savent diriger, mais surtout, ils savent formuler une vision capable d'entraîner les autres. La vision la plus forte que j'ai vécue personnellement remonte à mes années en Angleterre. Je dirigeais alors une équipe de conseil avant-vente. Nous étions une douzaine, tous jeunes, tous ambitieux, tous diplômés de MBA ou équivalent, tous impatients de relever de grands défis. Nous travaillions dans un environnement extrêmement international autour de contrats BPO, Business Process Outsourcing, complexes, représentant parfois plusieurs centaines de millions. Et notre vision tenait en trois mots. Bon, ce sont quatre. We make a difference. Nous faisons la différence. Cela paraît un peu simple, mais cette phrase avait une véritable force. Nous ne voulions jamais quitter un projet ou quitter le bureau le soir en ayant l'impression que notre présence n'avait servi à rien. J'avais déjà vécu cela auparavant, moi, pendant près de 2 ans, et je sais à quel point ce sentiment peut être destructeur. Je voulais ressentir chaque jour que j'avais apporté quelque chose à mes clients, à mon entreprise, aux actionnaires, aux investisseurs, à mes collègues, à mes équipes. Les grands dirigeants savent créer cela. Ils donnent du sens. Il formule une vision. Il donne envie de contribuer à quelque chose qui dépasse le simple quotidien. Il possède une véritable stature internationale. Et surtout, ils ont de la substance. Quels sont donc les traits communs que l'on retrouve chez les grands dirigeants? Ils ont une vision. Ils savent inspirer. Ils font confiance. Ils savent exiger. Ils savent faire progresser les autres. Ils sont clairement orientés vers les résultats. Parfois même de manière extrêmement exigeante. Ils assurent le suivi. Ils apportent de la clarté. Ils prennent des décisions difficiles lorsque cela s'impose. Ils font preuve de courage. Et surtout, ils exécutent. Ils exécutent, ils exécutent. Ils ne se contentent pas de parler. Ils ne remettent pas tout constamment en question. Ils savent maintenir une décision même lorsqu'elle comporte des inconvénients. Car il n'existe aucune décision sans contrepartie. Ils cultivent la sérénité lorsqu'elle ne leur est pas naturelle. Ils sont présents pour leurs équipes. Ils favorisent la coopération. Ils recherchent des situations gagnant-gagnant, que ce soit comme dirigeant, mentor, investisseur ou client. Et cela m'amène à une partie très personnelle de cette histoire. Parce qu'elle explique comment je suis moi-même devenu ce manager international et cet entrepreneur. À la fin de ma vingtaine, j'étais encore développeur de logiciels. Et j'avais une vision très claire. Je voulais devenir manager international. Les langues ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Je les aime. Je parle plusieurs langues à un niveau professionnel, mais ce qui m'intéressait n'était pas simplement d'apprendre des langues. Je voulais les utiliser. Je voulais travailler à l'international, évoluer entre plusieurs cultures, construire des ponts entre des univers différents. À cette époque, j'ai acheté un livre. Je crois qu'il s'intitulait « The International Manager ». Il provenait de l'Ashridge Management College, qui comptait à l'heure parmi les écoles de management les plus réputées du Royaume-Uni. Très forte en psychologie des organisations, en comportement organisationnel et en développement du leadership. Je lisais ce livre alors que j'étais encore développeur. Un jour, dans le métro de Munich, quelques collègues sont montés dans la rame. Je crois que nous étions sur la ligne U2. Ils ont regardé la couverture et m'ont demandé « Qu'est-ce que tu lis ?» Je leur ai montré le titre. Ils ont éclaté de rire. « International Manager, c'est ce que tu veux devenir ? » ?»« Eh bien, bonne chance. » J'ai simplement répondu très bien. J'ai continué à lire, parce que je n'avais aucune intention d'abandonner cette vision. Au contraire, je me suis dit quelque chose de très simple. Si je veux devenir manager, il serait peut-être judicieux d'apprendre ce métier. J'avais déjà vu trop d'excellents experts devenir de mauvais dirigeants. Je ne voulais surtout pas suivre le même chemin. J'ai donc décidé de préparer sérieusement cette transition. C'est ainsi que j'ai intégré la Henley Business School au Royaume-Uni pour y préparer un MBA. Et rétrospectivement, ce fut un véritable tournement dans ma vie. Ce MBA a représenté pour moi un véritable changement de paradigme. À l'époque, j'étais diplômé en linguistique informatique, en anglais et en langue romane. J'avais un diplôme universitaire solide, une maîtrise, hein, mais je ne me sentais pas encore prêt pour les responsabilités managériales auxquelles j'aspirais. C'est alors que le célèbre consultant de recrutement en Allemagne, à l'époque, Heiko Mell, il s'appelait à Düsseldorf, m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Faites un effort supplémentaire, passez votre MBA. Après tout, vous avez étudié quelque chose qui n'intéresse pas grand monde. » Sa formule était provocatrice, mais elle a fait mouche. Elle m'a poussé à agir. C'est ainsi que j'ai progressivement quitté le rôle de spécialiste pour devenir manager. J'étais un profil atypique, hein, un développeur de logiciels qui travaillait déjà sur des sujets liés à l'intelligence artificielle à l'époque, hein. J'avais participé à des projets de recherche allemands et européens, une initiative européenne de l'UE à l'époque qui s'appelait Esprit. Et puis le management est venu s'ajouter à cette base technique. Et soudain, tout s'est accéléré. À 37 ans, je faisais partie du cercle dirigeant d'un grand groupe international. J'étais parmi les plus jeunes, hein. J'évoluais dans des environnements extrêmement complexes. Structure matricielle, responsabilité internationale, culture différente, langue différente, marché différent, et très souvent avec le dos au mur. J'ai changé d'entreprise, mes rémunérations ont parfois doublé, j'ai occupé des postes extrêmement bien rémunérés. Aujourd'hui, j'aime plaisanter en disant qu'il s'agissait parfois d'une forme d'indemnité pour souffrance. Parce que derrière les titres et les responsabilités, la réalité était souvent beaucoup moins glamour. Il y avait de la peur, Il y avait du doute, il y avait de l'incertitude et parfois même de la souffrance. Mais j'ai aussi appris une chose. On ne progresse pas sans inconfort. Un athlète qui refuse l'effort ne progresse pas. Comme le disait souvent mon prof Neil Thornberry, « No pain, no gain ». Certaines périodes ont été particulièrement éprouvantes. Je me souviens notamment d'un épisode à Madrid, à l'aéroport. J'étais dans le salon d'attente. Dans un salon. J'ai vécu ce que j'ai compris bien plus tard être une crise de panique. J'ai aujourd'hui plus de 60 ans et c'est la seule période de ma vie où quelque chose de ce genre m'est arrivé. Simplement parce que je me mettais une pression énorme pour avancer. Voilà aussi la face cachée des carrières que l'on admire de l'extérieur. J'ai été écarté de projets parce que j'avais exprimé mon opinion. J'ai perdu certaines fonctions, j'ai été victime de programmes de réduction de coûts, alors même que mes résultats étaient bons. Parfois une carrière ralentit simplement parce que l'on se trouve dans le mauvais réseau ou parce que le réseau auquel on appartenait disparaît soudainement. Cela arrive. Et parfois, il faut simplement accepter que l'on tombe, que l'on se relève, que l'on continue. C'est de toutes ces expériences qu'ont émergé mes convictions en matière de leadership. Je n'oserais pas parler de doctrine, encore moins de philosophie. Le mot est devenu tellement galvaudé qu'aujourd'hui même les footballeurs ont leur philosophie. Non, je préfère parler de quelques convictions simples, quelques idées qui se sont imposées à moi avec le temps. La première est la suivante. Les résultats passent avant tout. Sans résultat, le reste n'a que peu de valeur. Et les résultats doivent arriver dans des délais raisonnables. On ne peut pas vivre éternellement de promesses. Bien sûr, lorsqu'on s'appelle Amazon et que l'on peut investir des milliards pendant des années, les règles sont différentes. Mais pour la plupart des entreprises, la réalité est beaucoup plus simple. Il faut produire des résultats et il faut les produire relativement vite. La deuxième conviction est tout aussi importante. Tu as besoin d'une vision capable de mobiliser les gens, comme notre fameux « We make a difference » en Angleterre avec mon équipe. Les personnes ne suivent pas durablement un simple plan d'action. Elles suivent une idée, une ambition, une direction. Elles veulent sentir qu'elles participent à quelque chose qui a du sens. La troisième conviction est simple. Tu dois être là pour tes équipes. C'est indispensable. Tu ne peux pas célébrer les succès lorsque tout va bien, puis chercher des coupables lorsque les choses tournent mal. Un dirigeant assume les deux, les réussites comme les difficultés. La quatrième conviction concerne un sujet souvent sous-estimé. La capacité à accepter la critique. Tout le monde affirme être ouvert à la critique. C'est facile à dire. Mais lorsque la critique devient réellement directe, lorsque quelqu'un remet en question tes décisions, ton comportement ou tes résultats, la situation devient beaucoup plus inconfortable. C'est là que commence le véritable travail sur soi et le leadership. Il faut savoir écouter, réfléchir, accepter que l'on puisse se tromper et chercher à progresser. La cinquième conviction pourrait se résumer par une phrase anglaise. Check your ego at the door. Laisse ton ego à la porte. L'ego est rarement un bon conseiller. Ce qui compte, ce sont les faits, la compétence, la réalité. Il faut parfois avoir le courage de faire demi-tour, de reconnaître qu'une décision était mauvaise, de changer de cap, plutôt que de continuer vers le précipice simplement parce qu'on s'est publiquement engagé dans une direction. J'ai vu trop de dirigeants s'enfermer dans leur propre récit. Et cela finit souvent mal. Enfin, ça peut détruire tout. La sixième conviction. Exiger beaucoup, mais accompagner tout autant. Comme le dit une formule que j'aime bien, « Make them grow by demanding a lot ». Fais grandir les gens en leur demandant beaucoup. Mais sois également présent. Soutiens-les. Aide-les. Reste humain. Exige des résultats. Sois clair lorsque les choses vont bien. Sois tout aussi clair lorsqu'elles ne vont pas bien. N'aie pas peur des conversations difficiles. Et n'aie pas peur non plus de prendre des décisions impopulaires lorsque c'est nécessaire. Voilà, au fond, ce que j'ai appris au fil de toutes ces années. Et c'est aussi ce que j'essaie d'appliquer aujourd'hui dans mon entreprise. Ce qui me touche particulièrement, c'est que mes collaborateurs et collaboratrices me renvoient souvent exactement ces qualités lorsque nous échangeons. Il parle de motivation, de capacité à décider, de communication, d'écoute, de respect, de confiance, de transparence, de responsabilité, d'exigence. Et cela me fait naturellement plaisir, non, ce retour, parce que cela signifie qu'une partie des leçons apprises auprès des bons dirigeants, comme des mauvais, a finalement trouvé sa place. Pour conclure, voici quelques principes simples. Les choses à éviter d'abord. Ne masque pas ton manque de préparation. Ne construis pas de faux récits. Ne compense pas ton insécurité par la pression. Ne deviens pas colérique. Ne rabaisse jamais tes collaborateurs. Ne fais pas semblant de consulter alors que tu as déjà décidé. Ne place pas ton ego au-dessus de l'intérêt collectif. N'abuse jamais une relation de dépendance. Et si tu te retrouves toi-même dans une situation de dépendance malsaine, cherche des alternatives. D'autres investisseurs, d'autres clients, d'autres opportunités, d'autres patrons. Parfois, partir est la meilleure décision. Et maintenant, les choses à faire. Comme leader, apporte de la clarté, donne une direction, fais confiance, exige, fais progresser, écoute, décide, reste ancré dans les faits, cultive la sérénité, reviens aux fondamentaux lorsque la situation devient difficile, regarde les chiffres, reste humain, sois présent pour tes équipes. Transforme le potentiel en responsabilité. Assume les conséquences de tes décisions. Sois courageux. Et surtout, fais la différence. Make a difference. C'est probablement la phrase qui m'a le plus accompagné tout au long de ma carrière. Je suis profondément reconnaissant d'être arrivé à ce 200e épisode. Et je suis encore plus reconnaissant que vous soyez toujours là. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Parfois, vous serez d'accord avec moi, parfois non. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est aussi grâce à ces échanges que l'on progresse. Lessons to Grow continue, avec de nouveaux entretiens, de nouvelles analyses, de nouvelles expériences de terrain. Et bien sûr, avec les C-level views dans lesquels des dirigeants remarquables de grands groupes internationaux comme de PME viennent partager leur expérience. Avant de nous quitter, j'aimerais dédier cet épisode à toutes les personnes qui m'ont permis d'apprendre, à mes anciens patrons, à mes mentors, à mes coachs, à mes clients, à mes investisseurs, à mes collègues et à tous les collaborateurs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, et tout particulièrement à Uwe von Grafenstein, mon coach en storytelling, parti beaucoup trop tôt de ce monde. Sans lui, il n'y aurait probablement jamais eu 200 épisodes de Lessons to Grow. Merci Uwe et merci à vous tous. Je me réjouis déjà des 200 prochains épisodes. D'ici là, it's all about growth.